Psaume 119, et on va lire les versets 105 à 112. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car elles sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Le texte ne parle pas directement de ce que je veux évoquer ce matin, on va le faire au travers des différents versets, mais j'aimerais apporter quelques conseils bibliques, parce que la Bible nous les donne, pour une bonne journée. Souvent, on démarre le matin avec notre petit café, on regarde dans le miroir, on se rend compte qu'on n'est pas bien coiffé, qu'on n'est pas beau, vous êtes bagarre, enfin, imaginez ce que vous voulez. Hein. Et puis, on part dans la journée et on oublie bien souvent l'essentiel. C'est que le Seigneur nous donne des conseils pour une bonne journée avec lui. Et on va voir plusieurs, il y en aurait des milliers hein, s'il fallait, mais on va résumer. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Métro, boulot, dodo. Ça, je peux vous le dire ici à Paris, puisque c'est ça. Hein. Et surtout, en ce moment, grève en plus. Métro, boulot, grève, dodo. Mais le chrétien, normalement, ne devrait pas vivre sa vie comme les autres. Elle est différente, sa journée. Et on va voir pourquoi. Parce que si on est observateur de la parole, on réalise justement que le Seigneur nous a laissé là des versets qui peuvent nous accompagner durant toute notre journée, dans les moindres faits, dans les moindres détails peut-être de ma journée, de mon quotidien. Et Dieu se plaît à nous donner des conseils dans telle et telle situation. Et parfois même, il me reprend parce que je ne fais pas forcément comme il voudrait. Et j'aimerais justement qu'on apprenne à vivre comme cela, avec ces bons conseils, tous les jours. Et vous allez voir que ça change complètement la vie, normalement. Alors, il y a des conseils pour le matin. Il y a des conseils dans la Bible pour le matin, c'est curieux ça. Et les conseils pour la journée, ça il y en a un paquet. Puis il y a même des conseils pour le soir et pour la nuit dans la Bible. Ah, donc le Seigneur nous accompagne du début jusqu'à la fin. On va commencer par le réveil, ça c'est le plus dur souvent. Au réveil, première chose qu'on fait c'est généralement prendre son petit déjeuner, mais je pense qu'il y a un autre petit déjeuner qu'on loupe bien souvent, c'est celui de prendre un moment d'intimité avec Dieu. Vous allez me dire, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, je sais, moi non plus j'ai pas le temps, et pourtant je le fais. On peut se lever 10 minutes plus tôt ou on peut se coucher un petit peu plus tôt pour avoir le temps de le faire. Vous pouvez le faire le soir aussi si vous voulez, ou à midi, ce n'est pas imposé le matin. Mais c'est bien de partir le matin avec ce moment d'intimité, d'abord dans la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible? C'est juste pour l'apprendre, pour la connaître? Non, je pense qu'on apprend à lire la Bible pour apprendre à connaître celui que l'on est en train de suivre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Hein? Si je vous posais 2 ou 3 questions sur Jésus, je ne sais pas si vous seriez capable de répondre, pas pour vous mettre mal. Mais si je veux dire que je suis chrétien et que je suis Jésus et que je ne sais pas qui je suis en train de suivre, c'est un peu bizarre. Dans la rue, il y a quelqu'un qui dit « Viens, suis-moi, qu'est-ce que vous faites ?»« Allô, police ?» Ouais. Là, on rigole, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont entendu 2-3 choses, croient être chrétiens, mais ils ne sont pas encore dans la connaissance vraiment de qui est Jésus-Christ. Et c'est bien dommage, et c'est souvent comme ça qu'on va tomber. Mais si je connais celui qui va m'accompagner durant toute ma journée, alors là, c'est autre chose dans ma vie. Ça me rassure, quelque part. Et puis connaître, lire la parole de Dieu pour traverser ma journée, ça va me donner des conseils bibliques. Et vous savez, si vous le faites tous les jours, régulièrement, il n'y a pas besoin de lire des tonnes, hein, un chapitre, c'est pas long, à force, au bout d'une année, vous allez accumuler des conseils bibliques. Et tout cela, ça va travailler dans votre vie, va vous apporter de la sagesse, va vous apporter un tas de choses qui sont bonnes pour nous. Et on aura, comme dit le psalmiste, là, une lampe à nos pieds. La lampe, elle n'est pas là simplement pour éclairer comme ça, mais elle est là pour éclairer mon chemin. Parce que mon chemin, parfois, ben, il y a des difficultés, il y a des pièges. Vous avez déjà essayé de marcher dans une pièce noire? Après, on a quelques bosses. Hein. C'est pas évident, et c'est exactement ça la vie, souvent. Mais nous, on a la chance d'avoir cette lampe qui nous permet d'éclairer notre chemin et de pouvoir avancer avec les bons conseils de notre Dieu. Et puis, dans ce moment d'intimité qu'on peut avoir le matin, je pense qu'il y a aussi la prière. La prière, ça paraît tellement ardu pour beaucoup, mais en fait, c'est un simple dialogue avec Dieu. Je parle avec Dieu. C'est compliqué de parler à quelqu'un? C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps. La Bible nous dit de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Sans cesse. Quelqu'un écrivait, hein, Samuel Benotro, en parlant de cela, c'est à la fois un privilège, une grâce et l'objet d'un ordre, la prière. Hein. La raison de l'existence de la prière peut donc être formulée ainsi. C'est la permission que Dieu accorde à l'homme et qui, parce qu'il lui est donné par Dieu, devient aussitôt pour lui un commandement, un ordre et une nécessité. Dieu nous demande de prier sans cesse, il n'a pas dit « je vous propose », il a dit « il faut le faire ». Alors quand on ne le fait pas, on se prive de quelque chose. Mais quelque part, prier, c'est un ordre de la part de Dieu. Est-ce qu'on l'a compris? Et puis, vous savez, c'est tellement bon pour la journée de commencer à prier, hein, de prendre son temps. Quelqu'un écrivait « si l'on n'a pas son sauveur à chaque heure, cela va mal ». C'est un monsieur, un auteur qui est connu, qui va avoir un accident juste après. « Si l'on n'a pas notre sauveur à chaque heure, cela va mal ». Si on n'a pas conscience de Dieu tous les mots, à chaque moment, il faut travailler aussi, hein, on est bien d'accord, je pense que je suis en train de dire, mais avoir conscience que Dieu est avec moi, c'est tellement important de savoir que l'on est protégé, que l'on peut faire appel à Dieu même dans notre travail. On peut aller Moi, j'allais dans les toilettes à l'époque, et quand ça n'allait pas, je priais, je demandais au Seigneur de m'aider, et il le faisait. C'était formidable. Mais je dois prier au début pour tout cela. Prier pour moi, ça, on sait le faire. Hein. Dans la prière, le premier pour qui on prie, c'est... On est comme ça, et le Seigneur nous demande de le faire. Mais prier comment? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a la prière de confession, parce que chaque jour, on a besoin de demander pardon au Seigneur. Chaque jour, on a besoin de se repentir. Mais ça peut être aussi un moment de contemplation, et ça, on n'oublie jamais. Et souvent, contempler Dieu. Quand vous verrez les prières de Daniel et d'autres, il y a un moment où ils contemplent Dieu. Prennent le temps de penser qui est Dieu, qu'il est grand, qu'il est majesté. Souvent, on vient, on s'assoit, on prie devant quelqu'un. Mais si on commence à considérer sa majesté, on est temps d'aller voir dans l'Apocalypse comment c'est décrit cette majesté, c'est énorme. Et c'est devant lui que je me présente. Donc ma manière de me présenter devant lui va aussi changer. Ce n'est pas le supermarché où je viens, où je pose mes prières, puis je m'en vais. Il y a quand même un respect à avoir. Mais je peux déposer mes requêtes et tous mes fardeaux. Mais la Bible nous dit aussi de prier pour les autres pendant ce moment-là. Je peux prier pour l'Église, chacun des membres, prier pour les malades, parce qu'on en a des fois. La Bible nous dit aussi de prier pour les prisonniers, ceux qui sont persécutés aujourd'hui dans certains pays. Ah, nous, on va bien, mais eux sont en prison aujourd'hui à cause de leur foi. Prier pour mon pays. On s'étonne souvent pourquoi un pays part en vrille, mais peut-être parce que les chrétiens ne prient pas. C'est dans Timothée, il a dit de prier pour les autorités. Vous les aimez pas, c'est pas le problème. On doit prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne de la sagesse, et eux aussi ont le droit d'être sauvés. Il y a des rois autrefois qui ont été touchés. Mais si j'oublie tout ça, c'est bien dommage. Alors vous allez me dire, ah oui, j'ai pas une grande mémoire. Vous savez ce que c'est qu'un stylo? Un papier? Alors maintenant, il y a les portables, les téléphones avec plein d'applications pour le faire. Eh bien, notez-le. Vous savez, moi, j'ai pas une grande mémoire. Donc je note tous les sujets de prière. Et chaque jour, je peux prier pour telle personne ou tel sujet. Et ça me permet d'avoir là toute une trame de sujets pour prier. Donc on n'a pas l'excuse de se dire j'ai pas de mémoire, je suis pas capable, etc. Tout le monde peut le faire. Et si toute l'Église se met vraiment à prier les uns pour les autres, vous allez voir la différence, à mon avis. Et si on prie en plus pour notre pays, peut-être qu'il y aura du changement. Le changement, c'est maintenant, ce qui paraît. Enfin, ça, c'est mieux. Donc un moment d'intimité avec son Seigneur le matin, c'est pour charger ses batteries avec des promesses. Dans quelqu'un à Lamentations 3, 22 à 23, normalement. Il disait bien à voix haute. Personne? Ah. Alors je vais le lire, hein, c'est pas grave. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est quand même formidable quand je me lève le matin et que je sais que Dieu va renouveler mes bontés, toutes ses bontés pour moi, c'est quand même autre chose que dire « je vais aller me faire mon café ». Pas la même chose. Vous pouvez vous faire le café en même temps et penser à ça, évidemment. Mais il faut en avoir conscience. Dieu va prendre soin de moi encore aujourd'hui. C'est formidable ce que Dieu veut faire pour moi. Et le fait de le savoir, ça fait quoi comme sentiment dans le cœur? L'habitude de connaître ce verset?
Ça rassure.
Ça donne de la joie, non? Enfin, vous êtes sinistre le matin, vous, hein, quand vous levez. Je sais que c'est pas évident, mais il y a des bons conseils, là, justement. Prendre ce temps avec Dieu, parce que ça va me donner de la joie. Et à ce moment-là, on peut aussi remercier Dieu pour tous ses bienfaits, même si on ne les a pas vus encore dans la journée, mais ça sera en fin de journée. Il est dit autre chose dans le psaume 121:8. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas.
Ah. C'est l'Éternel gardera
ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Qu'est-ce que vous voulez comme autre conseil ou comme quelque chose qui me rassure que ça? Le Seigneur garde mon départ, je pars au boulot, métro, boulot, dodo, et il garde aussi mon arrivée pendant tout ce temps-là. Elle va me dire, ah oui, mais des fois il m'arrive des problèmes, des difficultés, hein. Et alors, imaginez si le Seigneur n'était pas là, ce que ça donnerait. Peut-être qu'il nous a protégés d'un accident, ou pas, il l'a permis, il a ses raisons des fois. Il nous a protégés d'un tas de choses, du début à la fin de notre journée. Je peux donc partir serein, en paix, vers mon lieu où je dois aller. Et ça dépend si moi je saisis la main, parce que Dieu me tend la main tous les jours, mais moi, est-ce que je lui saisis sa main? C'est ça la vraie question. Parce qu'on peut partir dans nos journées tout seul, avec nos propres forces, et bien souvent on s'écroule à la fin. C'est bien triste, parce que quelqu'un veut tout simplement nous soutenir. Et quoi qu'il arrive, Dieu sera présent. Ça motive. Hein? Il n'a pas l'air motivé. Hein? Ça motive, normalement. Ça rend confiant pour la journée. Ça donne envie de faire sa journée, même si je sais que ce n'est pas toujours drôle. Hein? Ça donne envie, normalement. Alors, je peux déjà le matin, parce que là, je suis fort de sa parole, fort de cette relation avec lui dans la prière. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Merci. Merci de savoir toutes ces choses-là et de pouvoir partager cette journée avec toi. Le fait de lire la parole tous les jours, ça imprime des versets dans le cœur. Hein. Il faudrait se faire une versétèque, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pas une bibliothèque, mais une bibliothèque de versets qu'on le connaît au fur et à mesure, au moins qu'on connaît à peu près, parce que c'est des choses qui remontent au cœur dans certaines situations ou dans toutes les situations, et ça fait du bien d'avoir la parole au fond de son cœur. Hein. Mais pour cela, il faut évidemment lire, ça ne rentre pas tout seul. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, pas par des vidéos, par des... je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, par des psaumes. Et un entretien, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Quand la Bible parle, elle dit de mémoriser, mais aussi de ruminer la parole. Vous connaissez les vaches? Ça prend son temps pour faire extraire tout ce qui est bon là-dedans, dans l'herbe. Si je lis la Bible en... et que je pars, j'ai rien ruminé, on va dire. C'est bien de la lire sérieusement et prendre le temps durant sa journée, pourquoi pas, d'y repenser de temps en temps. Vous savez, à Paris, on a 1 heure ou 2 heures de trajet, donc vous avez le temps de ruminer. Hein. Plutôt que ruminer contre les grèves, ruminer la parole, ça sera peut-être mieux. Et le fait de ruminer cette parole, ça restera dans mon cœur et ça sera comme une espèce de refrain au fur et à mesure dans ma vie chrétienne. Et ces petits versets donnent beaucoup d'énergie dans une journée. Combien de fois je me suis souvenu de versets quand j'étais dans des situations difficiles dans ma profession, et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et puis en même temps, ces conseils pour le réveil, c'est se souvenir que cette journée, elle est précieuse. C'est une journée, une seule aujourd'hui, que je vais vivre, une de plus que Dieu me prête, merci Seigneur, il faut bien s'en rendre compte, hein. Mais souvent nous la vivons comme si on était immortel. On ne mourra jamais. Je suis comme vous, hein. Enfin, je me dis, on a l'impression que on ne mourra jamais, en fait. Mais aujourd'hui, ça peut être la dernière. C'est ça le problème. Je ne le souhaite pas, évidemment. Et c'est là où ça démontre combien cette journée-là, et c'est tous les jours, en fait, cette journée-là est précieuse. Elle sera vécue qu'une seule fois. Pas plus. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'elle va être utile pour moi? Est-ce qu'elle va être utile pour les autres? Est-ce qu'elle va être utile au Seigneur? Le bilan se fera à la fin de la journée, mais j'ai une seule journée, et qu'est-ce que je vais en faire? Et on en fait beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc la journée est... Merci pour le propos. Hein. La journée est précieuse. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 15 à 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Voilà un bon conseil de la parole de Dieu. Racheter le temps, c'est considérer la valeur de ce temps, la valeur de notre journée. La vie, elle passe très vite. Je crois que c'est en vieillissant qu'on s'en rend compte. Mais ça passe très vite et... Là, Michel-Ange disait, j'ai trouvé quelque chose, là, les minutes et les heures peuvent être transmuées en une vie riche et abondante. Michel-Ange a saisi ce fait un jour, alors qu'il s'exécutait un travail qu'il avait été contraint de faire. Quelqu'un le mit en garde. « Cela peut vous coûter la vie ?» Le grand artiste répondit, « À quoi d'autre sert la vie? Nos heures et nos jours vont continuer de s'écouler, mais ils peuvent l'être utilisés avec discernement et avec profit. » Un autre disait, c'est un philosophe, William James, affirmait que la noble utilisation de notre vie était de la consacrer à quelque chose qui lui survivra, car la valeur de la vie est évaluée moins par sa durée que par l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Il ne s'agit pas de savoir si nous avons vécu longtemps, mais si nous avons bien vécu et avec plénitude. On ne laissera pas tous des héritages derrière nous, mais peut-être une façon de vivre qui est un bon témoignage. Ça aussi, c'est laisser quelque chose derrière nous. Racheter le temps, c'est désirer aussi comprendre la volonté de Dieu. Si j'ai compris que ma journée est importante, je comprends aussi que j'ai besoin de comprendre la volonté de Dieu. Et pour cela, je dois lire la Bible, on l'a dit tout à l'heure, et le Seigneur va transformer tout doucement ma vie par son Saint-Esprit, pour que là où je me mettais en colère facilement, tout doucement, je vais devenir un peu plus patient. Là où j'avais un péché, ces choses vont disparaître. Et au fur et à mesure, je vais grandir avec le Seigneur. Faire que notre journée soit utile, ça c'est important. Alors on est obligé d'aller travailler, parce que c'est utile pour manger, parce que pareil, déjà. Mais elle peut être utile d'autres manières, par nos activités, par l'action, par ce que l'on va faire. Peut-être même des fois par le repos. Ah oui, parce que la Bible nous dit aussi de nous reposer. Il y en a qui aiment travailler, et puis à un moment, boum, ils se demandent, mais pourquoi ? Parce que le Seigneur s'est reposé aussi le septième jour. Et pareillement, nous, en tant que chrétiens, il faut aussi, je ne sais pas pour le sabbat, comme dans la loi, mais à un moment, il faut savoir aussi se reposer. Et c'est un moment justement pour se ressourcer avec le Seigneur. Que cette journée soit utile pour moi, pour les autres et pour le Seigneur. Voilà pour le matin. La Bible offre un cocktail de vitamines survitaminées, on pourrait dire, pour chaque matin. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous les voulez ? Est-ce que vous voulez en profiter ? Ça, c'est vous qui y répondrez demain matin. Mais c'est gratuit. Alors, il faut en profiter. Deuxième conseil, c'est pour une bonne journée. Là, il y aura un tas de choses à dire, mais j'ai un peu trié. La Bible a de nombreux conseils concernant le travail, par exemple. Ah oui, tiens, la Bible me dit, et mon conseil. Quelqu'un à Éphésiens 4, 28.
Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Bon conseil, il y en a qui volent parce qu'ils disent « j'ai pas de travail, j'ai rien ». Non, il faut chercher du travail. Il faut se mettre à travailler et c'est le Seigneur qui nous le donne. Et il nous donne donc des conseils. Si quelqu'un a faim aussi, un autre passage, dit qu'il travaille. Plutôt de toujours se plaindre et de voler ou de je ne sais pas quoi faire, qu'il travaille tout simplement. Et le passage dit pour donner à celui qui en a besoin. Non seulement il travaille pour se donner la nourriture, mais en même temps il va penser aux autres. Travailler, vous savez, c'est tellement bien parce que ça occupe une journée déjà. Qu'est-ce que vous feriez devant la télé toute la journée ? Pour ce qu'il y a en plus à la télé. Mais ça occupe la journée et avoir une activité, c'est quelque chose qui est sain pour l'homme. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas d'activité et qui passent leur journée à déprimer. Parce qu'ils font rien. Et ils se demandent pourquoi ils dépriment. Et puis ça ressasse. Ah oui, c'est pénible d'aller au travail, je le sais, mais c'est toujours mieux ça que de déprimer, honnêtement. Et puis surtout, c'est que Dieu, quand il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'a pas dit « c'est le paradis, vous ne ferez rien ». Il a dit « cultivez le jardin ». Il y avait du boulot dès le début. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme ou la femme soit un oisif. Au contraire, il avait déjà du travail au départ. Évidemment, le péché est venu et a compliqué ce travail, on va dire. Mais le Seigneur ne nous veut pas oisif. Le travail, c'est là, ce qui paraît. Elle conseille aussi la Bible pour la relation avec son patron. Ah, Éphésiens 6, 5 à 8.
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien.
Un bon conseil qui... mon patron, je dois l'aimer. Mon chef. Pas évident. Et en plus, il me dit de le servir comme je sers Christ. Alors, on est bien d'accord, s'il vous demande de tricher ou de faire des choses qui ne sont pas correctes, on ne respectera pas forcément ces choses-là. Mais bien souvent, on râle après notre patron. Bien souvent, on a de la colère après lui. Et le Seigneur nous demande de le servir comme on sert Jésus-Christ, que ça soit devant et quand il n'est pas là. Pas souvent, on est très bien quand il est là, parce qu'il y a la pression, mais quand il n'est pas là, on se relâche. Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un plus grand patron, on va dire, qui est là avec moi dans la journée, c'est Jésus-Christ, et lui me voit. Si je fais le fainéant quand le patron n'est pas là, vous le faites devant Dieu aussi, tout simplement, et le Seigneur le voit. Il dit d'obéir avec crainte, avec soumission, C'est que ce n'est pas toujours simple hein, de travailler pour quelqu'un d'autre, mais le Seigneur nous demande d'avoir de la crainte. Et pourquoi pas prier pour lui, si jamais il est pénible hein? On peut prier pour notre patron, ou pour les collègues de travail, ou le chef. Hein? Mais je veux avoir un bon témoignage, leur plaire sans être contredisant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, hein? On peut des fois ne pas être d'accord, mais il y a des manières de faire. On ne va pas faire un syndicat chrétien pour aller contre le patron, on est bien d'accord. Mais il est dit, c'est pour honorer, parce qu'il y a d'autres passages qui parlent de cela, c'est en agissant comme cela, on honore la parole de Dieu, la doctrine de Dieu. Finalement, en ayant un bon témoignage, vous honorez Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans notre vie. Elle conseille aussi de travailler selon une éthique divine, dans Proverbe 11, 1. Oui.
Alors, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable.
Merci. Ce verset, il est imprimé au fond de mon cœur à l'époque, quand on était sur Arles. Ben justement, je pesais tous les jours des articles pour le magasin, et à un moment, on m'a demandé de tricher. Et ça revenait tout le temps. Et j'ai dit non, évidemment, je n'ai pas triché. Mais on peut aller plus loin et le généraliser, c'est qu'il y a une forme d'éthique aussi à avoir dans notre travail. Dieu veut que l'on soit juste dans notre travail, autant avec le patron, autant avec les collègues de travail, mais avec tout le monde. On n'est pas là pour tricher, on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour arnaquer. Hein. On a quelque part un témoignage à donner. Et ce n'est pas toujours simple, parce que de plus en plus, ce monde nous met la pression pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, moi, j'ai été convoqué, et j'ai dit je suis prêt à démissionner, à virer, si je dois tricher, je ne suis pas d'accord. Et le Seigneur a fait un miracle, et tout est rentré dans l'ordre. Donc des fois, quand on est pris comme cela au pied du mur, mais si on est prêt à suivre l'éthique chrétienne, eh bien Dieu peut aussi nous délivrer. Il ne le fait pas toujours, j'en connais qui ont été licenciés. Mais il le fait aussi des fois. Mais ça dépend de moi, parce que vous savez, si vous commencez à tricher, à mentir, etc., tout ça, ça va travailler votre conscience. Et finalement, ce n'est pas meilleur. Des fois, il vaut mieux perdre son boulot, en trouver un plus sain, parce que le Seigneur va vous aider. Vous savez, quand vous l'honorez, Dieu vous honore aussi quelque part. Et être apaisé dans son cœur. Voilà pour le travail dans la journée. La Bible donne des conseils aussi pour la famille. Je vais résumer encore une fois. D'abord, un conseil pour le père. Il est dit dans plusieurs passages, hein, « Père, n'irritez pas vos enfants. Sinon, quelque part, ben, ils vont se décourager. » Ce n'est pas simple d'éduquer un enfant, je le sais. J'en ai pas, alors. Je peux imaginer, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que c'est. Mais je peux être des fois trop dur avec les enfants. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein, on est trop souple avec nos enfants. Mais on peut être aussi trop dur. Et à un moment, à force de leur mettre un tel fardeau, eh ben, ils se découragent. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. La Bible nous rappelle qu'on est le chef, en tant qu'homme, hein, le chef de famille. Alors pas le dictateur de famille, c'est pas ça, on s'entend bien. On a un rôle en tant que femme et homme, et l'homme est le chef de la famille. Mais souvent, on veut bien être le chef pour donner les ordres, mais ça veut dire aussi chef spirituel. Ça veut dire aussi que c'est moi qui porte la famille dans ce domaine-là. C'est moi qui vais éduquer les enfants dans la foi. La maman aussi, on va voir ça. On a chacun un peu un rôle, mais c'est moi qui devrais pousser, tirer la famille vers l'avant. Il est l'exemple spirituel. Vos enfants voient si vous priez votre Bible, si vous lisez votre Bible et si vous priez. Ils vous voient comment vous agissez tous les jours. Ils le voient. Et normalement, ce chef devrait motiver la famille à aller à l'église et à suivre le Seigneur. Alors, on aime bien être les chefs, hein, pour les ordres, pour choisir ça, ça. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui démissionnent. Ce soit dans tous les domaines, mais surtout dans ce domaine. Parce que venez aux réunions d'études bibliques, etc., j'ai que des dames souvent. Vous travaillez aussi, mesdames. Donc, pourquoi je n'ai pas d'hommes qui sont là, hein? Conseil pour la mère. Il faudrait lire Proverbe 31. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on parle là de la femme vertueuse. C'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est une mère qui était vertueuse, qui prenait soin de sa famille et de sa maison. Elle me dit, oui, mais à l'époque, ils ne travaillaient pas. Ben, c'est faux. Elle travaillait, cette dame. Et elle était acharnée. Elle se levait tôt et elle s'occupait de sa maison. Elle s'occupait de sa famille. C'était une mère qui était digne, tout simplement. On connaît Timothée qui a été éduqué par sa maman et par sa grand-mère, et c'est comme ça qu'il viendra à la foi. Tout ça pour dire que peut-être vous n'avez pas de père, vous n'avez pas eu de père ou de maman ou l'inverse, hein. C'est pas des excuses. On peut malgré tout éduquer son enfant dans la foi, et Timothée est devenu quelqu'un d'extraordinaire, puisqu'on l'a dans la Bible, et qui a servi le Seigneur. On a beaucoup d'excuses dans notre tête, on n'a pas le temps. On ne sait pas comment faire, etc. Si vous n'avez pas le temps, c'est faux, vous avez le temps. Si vous n'avez pas comment faire, venez me voir, on peut en parler. Il existe plein de livres aussi là-dedans. Mais chassons les excuses, c'est tellement important. Puis il y a ce rôle, on va dire, des parents ensemble, hein, elles ont une responsabilité, c'est d'éduquer l'enfant dans la foi. Ou alors vous êtes vraiment cruel, parce que soit vous vous en fichez que vos enfants soient sauvés, parce que c'est ça si on ne le fait pas. Soit on se met à essayer de les éduquer, après, ils ont leur réponse à donner aussi. Hein. La mère de Spurgeon, hein, Spurgeon était un grand orateur qui est assez connu, hein, et là j'ai un petit exemple par rapport à sa mère, hein. Il raconte comment elle lisait les Écritures à ses enfants, les suppliant de prendre en considération le bien-être de leur âme. Je ne saurais dire combien je dois aux paroles solennelles de ma mère. Je me souviens de l'entendre prier une fois de la sorte. « Maintenant, Seigneur, si mes enfants persistent dans leur péché, ce ne sera pas par ignorance de leur perdition. Mon âme devra porter contre eux un prompt témoignage au jour du jugement. » Elle est dure, hein, « s'ils ne saisissent pas de Christ. » Cette pensée de ma mère portant un prompt témoignage contre moi me transperça la conscience. Comment oublierai-je le jour où, pliant le genou et le bras autour de mon cou, elle pria ainsi, « Oh, que mon fils vive devant toi !» Il y avait un amour pour Dieu d'abord, mais aussi le désir de voir cet enfant se convertir un jour. Et Spurgeon va évidemment se convertir. Et le ministère qu'il a eu, ben, ça a commencé par sa maman. Il a eu un sacré ministère, hein, beaucoup de conversions, mais ça a commencé par une maman qui priait, qui s'occupait de son enfant. Souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir pasteur, et je le dis, déjà, ce n'est pas un bon boulot, mais ce n'est pas moi qui peux être avec vos enfants pour les éduquer. Moi, j'essaie de m'occuper de tout le monde, mais ça, je ne peux pas le faire comme travail. Et donc, chaque maman, chaque père aussi, a son rôle dans la famille pour éduquer dans la foi ses enfants. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Mais si je ne l'ai pas fait, ben, c'est bien dommage. Démissionner, c'est très facile. Et on va trouver un tas, surtout sur Paris, parce qu'il y a des journées énormes, mais on va trouver toujours une excuse. Hein. Vous avez besoin d'habiter à Paris pour trouver des excuses, pour ne pas le faire. Mais on doit donner des repères à nos enfants, surtout aujourd'hui. Parce que là, s'il fallait aller dans un collège aujourd'hui, je pèterais un plomb, moi. Vivre ce qu'ils vivent tous les jours, c'est du n'importe quoi. Hein. Et c'est vraiment moche. Mais eux sont là tous les jours. Et doivent avoir des repères quand ils rentrent à la maison pour poser des questions, mais aussi pour les reprendre, peut-être, par rapport à ce qu'ils ont appris de mauvais à l'école ou ailleurs, hein, avec les copains. On doit leur donner des repères et surtout présenter le salut, leur faire comprendre que quand ils font mal, c'est un péché, et les conséquences que ça a aussi. Hein. Donc c'est une grande responsabilité que d'être parent. La Bible donne aussi des conseils pour les enfants. Ah, on a tous été enfants un jour, je crois. Oui, normalement. Hein. Soit vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez. Et la Bible nous disait, obéir à ses parents. Qui était obéissant à ses parents? Je ne vais pas lever la main parce que ce n'est pas mon cas. Ah oui, on aime bien dire aux parents, ah ben, il ne faut pas s'irriter contre moi, il faut m'aider. Mais en tant qu'enfant, ben, je dois aussi obéir à mes parents. Mes parents, s'ils sont encore vivants, c'est toujours mes parents. Alors oui, on a pris notre envol, mais on respecte encore ses parents, normalement. C'est juste et agréable devant Dieu, nous dit la Bible. Juste et agréable. Et en même temps, un autre passage dit que on doit honorer nos parents. C'est fort le mot. Honorer mes parents, oui, quand ils sont gentils. Mais les parents ne sont pas toujours gentils. Mais je dois quand même les honorer parce qu'ils ont pris soin de moi pendant un certain temps et s'ils ne l'ont pas fait, tant pis. Mais moi, je veux quand même les honorer. Et parce qu'il y a une promesse dans Éphésiens qui dit aussi qu'on vivra plus longtemps. Donc il y a un impact dans ma manière d'avoir une relation avec mes parents. Donc des conseils pour toute la famille, papa, maman, et puis les enfants. Et si chacun met en pratique ses conseils, ah, la belle famille qu'il va y avoir. Ça va être beau. Bon, ça c'est le rêve, hein. Mais on peut le faire, normalement. On peut le faire. Dans cette belle famille, vous savez, vous allez être appelé à vous pardonner, hein, parce qu'on se chamaille. Hein. Personne ne se chamaille jamais, hein. Ça je vous rassure tout de suite. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens, je voyais un couple, je disais, ils sont toujours bien ensemble, hein, et je croyais que c'était l'idylle complet jusqu'au jour où je l'ai vu se chamailler pire que moi. Je dis, ok, j'ai compris, la réalité revient. On est tous comme cela, on a des hauts, des bas, mais la Bible nous permet de nous pardonner aussi les uns les autres, et ça c'est formidable. La Bible a des conseils aussi pour nos relations quotidiennes. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Comme il n'y a que moi qui me mets en colère souvent, ça ne vous concerne pas, ça va. Ah, la colère. Est-ce que quelqu'un gère la colère? Au top, je veux dire. Hein. Bon, on arrive un peu à se calmer des fois, mais gérer la colère, ce n'est pas toujours évident. hein, parce que c'est injuste, parce qu'il y a un tas de choses qu'il nous faut exploser des fois, mais la Bible nous demande de savoir gérer la colère. C'est apprendre à se maîtriser. Et cette maîtrise vient du fruit du Saint-Esprit. Si je le laisse travailler dans ma vie, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de cette vie de prière que j'ai, le Saint-Esprit va œuvrer en moi et va m'apprendre à me maîtriser. Je ne pense pas qu'on gagnera un jour à devenir un homme ou une femme sans plus jamais se mettre en colère, mais on peut la gérer. Avant, on explosait, on frappait peut-être même. Le chrétien, normalement, devrait pouvoir temporiser tout ça. Peut-être des fois même ne pas être énervé, parce qu'il a appris avec le Seigneur à être plus calme. Mais c'est faisable, c'est faisable. Il faut savoir bien réagir aussi, hein, ne pas laisser nos sentiments devenir maîtres de nous, parce que c'est souvent nos sentiments, hein, qui débordent et qui font exploser quelqu'un. Et la Bible nous dit de, justement que si on se met en colère, ben, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Hein. Et là, il y a un couple chrétien qui venait de se quereller, et lui, il a crié contre sa femme et elle lui a répondu sur le même ton. Quand ils se sont mis en pyjama pour aller au, prier, pour aller au lit, pardon, la femme s'est penchée vers son mari et elle lui a dit « Chérie, nous avons promis de ne jamais laisser le soleil se coucher sur notre colère. » Et le mari a répondu « Le soleil brille encore sur la Chine. » Je ne sais pas pourquoi c'est l'homme qui a dit ça, mais bon. Mais ça, c'est notre cœur. On est prêt à trafiquer la Bible pour arriver à nos fins. Vous savez, quand on se couche avec notre colère le matin, quand vous levez, alors là, c'est pas joli, joli. Hein. Et on est triste. Alors bon, des fois, il faut savoir laisser le temps aussi passer parce que on ne peut pas toujours se réconcilier tout de suite, mais voilà, ayons ce texte dans la Bible. Et surtout, il y a une façon de se mettre en colère, puisqu'il dit, quand vous mettez en colère, il ne faut pas qu'on laisse accès au diable. Je pense qu'il faut des fois se mettre en colère après un enfant, parce qu'il mérite d'être puni. Mais si je laisse accès au diable, c'est tout ce qui suit, hein, les belles paroles, les actes qui ne sont pas vraiment chrétiens. C'est ça que le Seigneur ne veut pas que l'on ait. Savoir aussi pardonner, parce que quand on se met en colère, généralement, la suite, c'est la réconciliation, se pardonner. J'ai un exemple de pardon, hein, c'est en parlant d'une femme, d'un chef zoulou, qui assistait une fois à une réunion de l'armée du salut, où elle a entendu parler de Jésus et a répondu à l'appel. Quand son mari a entendu parler de cela, il lui a défendu d'y retourner sous peine de mort. Cependant, dans son désir d'entendre encore parler de Jésus, elle osa y retourner, et quand son mari a su cela, il est allé à sa rencontre sur le chemin du retour, et l'a battue si sauvagement qu'il l'a laissée pour morte. À un certain moment, sa curiosité l'a poussée à revenir pour voir ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas là où il l'avait laissée, mais il a observé des brindilles cassées et a fini par la retrouver allongée sous un buisson. Se penchant sur elle avec ses yeux cruels, il la regarda d'un air méchant et dit « Et qu'est-ce que ton Jésus-Christ peut faire maintenant pour toi ?» Elle a ouvert les yeux et, en le regardant, et elle a dit doucement « Il m'aide à te pardonner, tout simplement. » Le pardon, ce n'est pas toujours simple à donner, pas toujours simple à recevoir non plus. Mais quelqu'un disait, le pardon nous fait ressembler à Dieu. Quand je pardonne, je suis comme Dieu quelque part. Alors, pas Dieu, on s'entend, mais je ressemble à Dieu parce que moi, chaque fois que je viens lui demander pardon, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, attends, ça fait 1000 fois maintenant, il y en a marre. Hein. Fatigant là, hein, toujours répéter ton péché. Qu'est-ce qu'il fait ? Si je suis sincère, évidemment. Hein. Il me pardonne, tout simplement. Et si quelqu'un vient vous demander pardon, ben, acceptez son pardon. Ou si vous devez vous demander pardon à quelqu'un, ben faites-le. Après, si l'autre ne veut pas de votre pardon, ben ça c'est son problème. Vous, votre dette est réglée avec lui et avec Dieu, tout simplement. Il faut savoir aussi être attentif au prochain, nous dit la Bible. Hein. C'est un commandement d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Alors évidemment, si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas aimer les autres. Donc il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ça, c'est aussi biblique. Hein. Alors, ce n'est pas de l'égocentrisme, hein. Ce n'est pas des bisous, ce n'est pas ça. Mais apprendre à s'aimer, ça veut dire faire comme le Seigneur veut. Et je dois apprendre à aimer aussi mon prochain. Et mon prochain, c'est le collègue de travail, c'est mes amis, c'est mon voisin, c'est les camions. Ça, c'est bon. C'est ma petite aiguille en ce moment. L'amour ne fait point de mal au prochain, nous dit la Bible. Même si des fois, on a des ennemis, des gens qui font vraiment mal, l'amour ne fait point mal au prochain. Il veut agir comme Jésus-Christ. Jésus, on lui a fait énormément de mal, mais il a toujours réagi correctement. Dire « je ne suis pas Jésus », oui, c'est vrai, heureusement d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas demandé de le faire. Hein. Faites aux autres, et ça j'aime beaucoup, dans Matthieu 7, 12, quelqu'un a un moment l'adversaire, donc... Matthieu 7, 2, pardon, ou 12, je veux.
Car on vous jugera...
Non, c'est verset 12, c'est moi qui ai fait une erreur sur ton papier.
C'est...
quand je vais faire travailler tout le monde.
Que les hommes fassent pour vous, faites-eux de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
On attend toujours du respect des autres. Ben, on devrait aussi agir de la même manière. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous. Ah oui, c'est un... Si tout le monde le faisait dans ce monde, plus de guerre. On s'ennuierait presque, hein, quelque part. Mais faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Et ça, ça changera complètement ma relation avec les autres et ma vie, évidemment. La Bible a aussi des conseils pour nos problèmes quotidiens. Elle nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Aucune tentation, aucune épreuve n'est trop dure si je dois la vivre. Alors là, on n'est pas tout à fait d'accord avec la Bible généralement. Parce que quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'on dit ? Encore moi ? Toujours moi ? Regarde, ces chrétiens, ils n'ont jamais de problème. Eh oui, on se plaint. Généralement, le premier réflexe, c'est de murmurer. Le premier réflexe, c'est de ne pas vouloir cette épreuve dans la vie. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Ça veut dire que quand je dis que je ne peux pas y arriver, vous dites que Dieu est menteur. C'est ça, tout simplement. Alors, les épreuves sont différentes. Elles ne sont pas les mêmes chez chacun, parce que chacun est différent. Certains sont capables d'accepter certaines choses que d'autres ne sont pas capables. Mais ces personnes sont aussi au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Hein. Mais je peux m'en sortir, nous dit la Bible. Il n'y a pas d'épreuve au plein de mes forces. Si j'accepte l'épreuve, ça fait mal, oui, bon, ben voilà, mais c'est là où on grandit aussi. J'accepterai d'aller dans cette épreuve et le Seigneur va me permettre aussi d'en sortir. La Bible nous dit de ne nous inquiéter de rien. Ça, on l'a acquis depuis longtemps. Plus d'inquiétude depuis longtemps. Hein. Ne vous inquiétez plus. Moi non plus. Et pourtant, si on le prenait au pied de la lettre, c'est ce qu'il faudrait faire. Si je m'inquiète, c'est que je veux agir par moi-même. Si je m'inquiète plus, c'est que j'ai déposé le fardeau, vraiment déposé le fardeau, et c'est Dieu qui gère. Et généralement, ça marche, curieusement. Mais si moi, je veux gérer la situation, Dieu, il laisse faire, hein, jusqu'au jour où on se rend compte que, bah, on n'est pas très doué. Ne vous inquiétez de rien, Dieu peut vraiment aider, et donc il s'agit de ne pas paniquer. Je pense qu'il faut du temps pour vraiment accepter cette vérité dans notre vie chrétienne, et c'est pour ça que Dieu permet aussi des fois des épreuves, pour qu'on commence à faire confiance, tout simplement, à Dieu, et on se rendra compte à un moment qu'on n'est vraiment pas tout seul. Dieu est avec moi et il peut aussi tout pour moi. Dans Matthieu 28, 19, il a dit avant de partir, il a tout pouvoir sur ce monde. Donc Dieu peut absolument tout gérer, quelle que soit votre situation. Ah ben ça va alors, pourquoi je m'inquiète ? Pourquoi je panique ? Seulement il faut le vivre. Et en même temps, et là je vais un peu plus loin, mais j'ai aussi des frères et des sœurs en Christ. La Bible dit que si quelqu'un souffre, on souffre avec ce membre. Si quelqu'un est dans la maladie, on va prier avec cette personne, on va l'accompagner. Donc, non seulement Dieu est avec moi, mais si je suis dans des situations difficiles, eh ben, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai l'Église, normalement, qui doit être avec moi. Ce n'est pas toujours le cas, hein, parce que dans l'Église, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est bien dommage, mais l'Église est une famille, et on devrait compter les uns sur les autres aussi. Puis la Bible a des conseils pour notre témoignage. Je parle de beaucoup de choses, mais c'est notre journée, ça, tout simplement. Toute occasion est favorable à l'évangélisation. Toute occasion. Là où vous êtes à votre lieu de travail, c'est là où Dieu vous veut. Parce que des fois, on aimerait travailler dans le champ du voisin. Là où vous êtes, vous avez peut-être l'occasion à un moment de partager la bonne nouvelle. Il faut savoir le faire avec sagesse, avec un peu d'amour aussi. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 20,
nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
On a parlé vendredi soir, un ambassadeur, il représente son pays, il représente aussi le chef, le roi à l'époque, mais aussi le président, et nous, le roi, c'est Jésus-Christ. Et le royaume, c'est notre cité, quelque part. Et moi, je suis cet ambassadeur qui est appelé à annoncer la réconciliation à quiconque veut bien l'entendre. Vous savez, je le dis souvent, mais je le répète, mais moi, des fois, quand je suis à faire mes courses, je regarde autour de moi et je me dis que la plupart vont aller en enfer. Alors, on ne peut pas évangéliser comme ça non plus, on est bien d'accord. Mais regardez vos collègues, est-ce qu'ils connaissent le Christ ? Peut-être pas. Ces gens-là vont en enfer s'ils meurent demain. Est-ce qu'on ne peut pas, de temps en temps, parler du Seigneur, alors peut-être pas brutalement comme ça, mais demander au Seigneur d'avoir une opportunité. Prier le matin peut-être pour une opportunité. Ça marche généralement, curieusement. mais avoir un cœur aussi pour ses collègues, pour ses amis, pour les gens que l'on voit durant toute la journée. On est au service d'un roi parfait, on l'a vu tout à l'heure, qui a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Il nous veut ambassadeurs, parce que sinon comment ils vont entendre la parole de Dieu? Dieu peut faire d'une autre manière, mais il nous a placés dans notre champ, à nous, œuvrer tout simplement là. Donc la parole pour la journée, hein, parce qu'on a vu beaucoup de choses, la parole est comme une amie qui offre des bons conseils pour la journée. Et si je mets tout ça en pratique, ça va aller bien au travail, ça va aller bien dans la famille, ça va aller bien avec les relations avec le prochain, etc. etc. Et peut-être que même quelqu'un va accepter Jésus-Christ dans sa vie. Qui sait? Et puis la Bible nous donne des conseils pour le soir. La journée est finie. Il était temps. Et elle nous donne des conseils pour la soirée. Hein, et il y aurait beaucoup de choses à faire, mais je fais une espèce de résumé. Hein. Pourquoi pas prendre un instant? Alors je sais que ce n'est pas toujours simple, mais prendre un instant pour repasser sa journée. Repasser les bontés qu'on a vues au départ, les bontés de Dieu pour moi durant ma journée. Je n'ai pas eu d'accident, le travail ça s'est à peu près bien passé, j'ai pu témoigner à quelqu'un. C'est génial, hein? Je vais pouvoir dormir bientôt. C'est formidable, une journée comme ça, non? Ça n'a pas l'air de vous parler. Mais c'est ça, normalement. Si on a l'occasion, c'est pas toujours simple, je sais, ben pourquoi pas le faire en famille, hein, de partager autour de la parole de Dieu. Je connais beaucoup de chrétiens qui le font, et ils travaillent quand même. C'est l'occasion, justement, de partager avec les enfants et d'annoncer l'évangile à ses enfants et partager les expériences des uns et des autres. C'est l'occasion aussi de contempler la magnificence de Dieu, se dire, tiens, quand même, Dieu m'a aidé dans ce domaine aujourd'hui, il m'a protégé là, j'ai évité un accident, etc. Dieu est content quand on lui dit merci au bout de la journée. Il est glorifié. Hein. On cherche à glorifier Dieu d'une mille et une manières par le chant, etc. Mais dire merci. Mais combien Dieu est heureux, à mon avis. Psaume 27, 4, quelqu'un là, normalement.
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais que je tombe toute ma vie pour la maison de l'Éternel, pour contempler la même chose de l'Éternel et pour la prière.
Il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Bon, à l'époque, il y avait le temple. Nous, on n'a plus le temple. C'est nous le temple. Mais l'idée est là. J'ai envie d'être dans la présence de Dieu tout le temps, constamment. Des conseils aussi pour une bonne hygiène spirituelle, puisque le soir vient d'arriver. Et certainement, bah, j'ai glissé d'une manière ou d'une autre. Hein, et c'est bon de s'arrêter et de demander pardon au Seigneur. De se laisser tout simplement purifier. Demander pardon pour mes péchés. Peut-être même pour ceux que je ne me suis pas rendu compte. Parce que des fois, on le fait sans savoir. Nous humilier tout simplement devant Dieu. Et quand on s'humilie devant Dieu, eh ben, les batteries sont rechargées et on repart de plus belle le lendemain. Prendre un temps pour être reconnaissant, comme on l'a dit, hein, repasser cette journée, Hébreux 12, 28.
Pardon. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte.
Prendre du temps pour reconnaître ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Vous savez, des fois, on dit merci à Dieu parce qu'il y a eu un miracle, parce qu'on a été guéri, mais le fait de traverser juste une journée tranquillement, c'est pas... Non, on peut pas lui dire merci pour ça. Je crois que Dieu est plus honoré pour les petites choses qu'il fait dans le détail quand on lui dit merci que pour les grandes choses. Et en même temps, pendant ce temps-là, on peut penser à notre espérance. Le monde travaille tous les jours, etc., mais ils savent pas où ils vont. On va au boulot, on dit si vraiment ça se passe mal, ben... Ce soir, je serai avec le Seigneur et je vais participer pendant toute l'éternité à cette gloire-là. Donc tout va bien quelque part. Hein, mais il faut se souvenir de cette espérance. Les jours mauvais vont se transformer un jour en jour glorieux dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de métro boulot dodo, mais on ne va pas être inactif, si j'ai bien compris, dans le ciel. Et conseil pour une bonne nuit de sommeil. D'abord, savoir se reposer. Hein, la Bible nous le dit. On a besoin d'un repos physique. Un repos spirituel aussi. Ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que souvent on pense au lendemain, ah j'ai ça à faire, j'ai ça, et voilà. Hein. Et puis quand on y pense, ben, finalement vous dormez mal, hélas. Hein. Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous connaissez, disait « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, elle prive aujourd'hui de sa force. » Je redis, « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, elle prive aujourd'hui de sa force. » C'est aujourd'hui que je ne dois pas m'inquiéter, et demain, de toute façon, qui peut savoir déjà qu'est-ce qui va se passer, et surtout qui peut changer ce qui va se passer par vos inquiétudes. La Bible dit qu'on ne peut absolument rien faire. Donc on veut faire un gros dodo, un bon sommeil, c'est quand même plus agréable, pour repartir de plus belle. Et la Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, il me garde pendant la nuit. Donc vous savez, quand on s'endort, c'est un acte de foi, parce qu'on ne sait pas comment on va se réveiller. Hein. Moi, je ne gère pas ma nuit. Donc, je sais que le Seigneur est là et qu'il ne dort pas, lui, et qu'il prend soin de chacun d'entre nous. La parole de Dieu donc me conseille même pour ces moments de sommeil, pour la soirée. Et ça, c'est une grâce pour moi, quelque part, d'avoir tous ces conseils pour la journée. Pour terminer, ça fait beaucoup, il y aurait des milliers d'autres choses à dire. Hein. Je me suis dit, je vais quand même vous laisser rentrer. Hein. Mais le fait de lire la Bible au fur et à mesure, ça va vous imprégner de tous ces conseils. Et c'est bien de les connaître. Pour le chrétien, la parole et ses conseils doivent être omniprésents dans sa vie. C'est tellement important hein, de savoir certaines vérités bibliques. Ça va m'aider. Dieu a prévu un conseil pour chaque instant de notre vie. C'est génial quand même qu'on y réfléchit. Chaque moment de ma vie, je peux peut-être trouver quelque chose en relation dans la Bible. Et Dieu veut donc me parler à chaque moment de ma vie. C'est un père qui nous veut du bien. Ah, un papa qui me veut du bien. Et un papa, mais quel papa? Il peut tout. Il est tout puissant. On comptait sur notre papa à l'époque, hein, parce que papa, généralement, c'était... Mais là, il domine le monde. Ça, c'est formidable d'avoir un tel père. Mais on y pense, et puis demain, on est complètement oublié. C'est bien dommage. Prenons le temps de mieux connaître, justement, ce père, ses conseils, parce qu'ils sont tellement utiles pour notre journée. Donc, vous voulez passer une bonne journée, là? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Prier.
C'est tout?
Dans
la Bible? Oui, arrêtez de cogiter. Suivez simplement la lampe, la parole, qui est cette lampe à mes pieds, et tous ses conseils, et ma journée se passera comme elle se passera, mais elle se passera bien, parce que Dieu sera avec moi, même si elle sera difficile, mais le Seigneur sera avec moi. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui est bien souvent boudée par les chrétiens et c'est bien dommage. Et je te prie aujourd'hui de donner envie à chacun d'entre nous de la lire davantage, de mieux la connaître, même ces passages qui nous semblent si compliqués des fois et qui donnent pourtant de bons conseils. Seigneur, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais je pense qu'on ment aussi des fois. Aide-nous à lire cette parole, aide-nous à prendre du temps aussi avec toi dans la prière pour que cette relation grandisse et que nous puissions te connaître tel que tu es réellement, Seigneur. Au fur et à mesure, nous rendre compte que nous avons vraiment la chance déjà d'avoir un sauveur, mais aussi d'avoir un tel Père qui veut nous soutenir au quotidien. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'obéir, apprends-nous à te servir, Seigneur, et apprends-nous aussi à partager cette bonne nouvelle avec quiconque veut bien l'entendre, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour cette parole. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.